Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes mardi 2 novembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawi. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord l'essentiel. Le 2 novembre, c'est la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes au Burundi. Les auteurs de ces crimes restent impunis. L'Union burundaise des journalistes, UBJ, dit que tôt ou tard, ils seront traduits devant la justice. Au moins 12 personnes ont été tuées la semaine dernière dans les différents coins du Burundi, selon le bilan hebdomadaire d'insécurité produit par la Ligue des droits de l'homme, ITK. La situation inquiète cette organisation. Le phénomène d'enlèvement fait aussi toujours parler de lui. Un homme a été enlevé ce lundi sur la colline Gatabo, en commune Kiganda de la province Muramvya. Sa famille s'inquiète pour sa sécurité. Voilà pour le sommaire de ce journal qui vous sera présenté par Josephine Jones-Ndimana. Madame, messieurs, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Ndamba en direct sur le www.ndamba.org.
Le 2 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Depuis l'adoption de cette journée par les Nations Unies, les crimes commis contre des journalistes burundais ne cessent d'accroître. Certains d'entre eux ont été tués, d'autres sont torturés au cours de l'exercice de leur métier. Le point avec Parfait Mudasigana.
Lors de sa 68e session tenue en décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée, je cite, « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité », fin de citation, qui a proclamé la date du 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Cette résolution a exhorté les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle de l'impunité. La date de cette journée internationale a été choisie en mémoire de deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre au Mali. Cette résolution condamne également toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. Elle exhorte aussi les États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette violence, en faire rendre compte et traduire en justice les auteurs des crimes commis contre des journalistes et des travailleurs des médias. Cette journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes arrive au moment où des journalistes burundais sont régulièrement persécutés, avec notamment des assassinats, dont celui de Christophe Nkezabahizi de la Radio-Télévision Nationale, tué avec toute sa famille par des agents de sécurité en octobre 2015. Il y a également la disparition forcée de Jean Biglimana depuis juillet 2016, enlevé par des agents du Service National des Renseignements. Cette journée nous rappelle également la torture physique qu'a subie Esdras Nikumana de la RFI en août 2015. Nous n'oublions pas également Bobo Rugulika, emprisonné en 2015 pour avoir révélé des informations sur l'assassinat de trois sœurs italiennes. La liste n'est pas exhaustive, mais nous ne saurons terminer sans citer des attaques perpétrées en 2015 par la police à l'encontre des médias indépendants, et cela a engendré la fuite de plus de 100 journalistes suite à d'incessants harcèlements et menaces d'assassinat par le pouvoir en place.
Merci bien, Parfait Mudasigana, pour Alexandre Niyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes, UBJ. Il est évident que la justice manque cruellement au Burundi, mais tôt ou tard, les juridictions régionales ou internationales vont traduire en justice les auteurs de ces crimes. Écoutez Alexandre Niyungeko.
C'est une occasion aussi pour l'Union burundaise des journalistes de rappeler les crimes qui ont été commis contre nos confrères qui restent impunis. Nous rappellerons en passant l'assassinat de la famille de Christophe Nkezabahizi, l'enlèvement et la disparition de notre confrère Jean Biglimana et bien d'autres cas qui restent impunis. C'est une occasion encore une fois de continuer à marteler, à rappeler que la justice devrait se saisir de ce cas. Nous savons très bien que cette injustice manque cruellement au Burundi, que ce soit pour les crimes commis contre les journalistes ou même d'autres crimes. Mais nous gardons toujours espoir. Nous sommes convaincus que ces crimes ne resteront pas impunis. Tôt ou tard, cette justice dont nous avons soif se chargera de ces cas et les criminels seront traduits devant les juridictions et ils vont payer certainement pour ces crimes, que ce soit chez nous ou que ce soit dans d'autres juridictions régionales ou internationales, puisque cette question d'impunité des crimes commis contre le journaliste c'est devenu une préoccupation mondiale et effectivement les différents instruments internationaux et les juridictions internationales seront compétents et sont compétents d'ailleurs pour mettre fin à cette impunité.
Et dans le monde, 9 cas sur 10 des crimes commis aux journalistes restent impunis. L'année dernière, au moins 62 journalistes ont été tués, victimes de leur métier. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelle les chefs d'État et gouvernement à être solidaires avec les journalistes dans leur travail quotidien et aider à punir les auteurs des crimes commis contre eux conformément à la loi. Vous écoutez la radio Inzamba Agathe Kakawe, c'est la tranche de l'actualité.
Inzamba.
Dans le chapitre de l'insécurité, une personne a été enlevée par des hommes en uniforme qui étaient à bord d'une camionnette double cabine. C'était le soir de ce lundi sur la colline Gatavo de la commune Kiganda en province Muramvya. Les proches sont inquiets de sa sécurité. Ils demandent sa libération inconditionnelle. Plus de détails avec Beni Serakana.
Ce jeune homme est le nommé Désiré Niuhide, connu sous le sobriquet de Gasongo. Il a été enlevé par des hommes en uniforme qui sont venus à bord d'une camionnette aux vitres teintées. Ils lui ont trouvé dans sa boutique, lui somma l'ordre de fermer et lui ont manu militari embarqué dans la camionnette.
Ils sont arrivés à bord d'un pick-up aux vitres teintées. Ils lui ont pointé un fusil de type pistolet, lui obligeant de fermer sa boutique. Ils lui ont manu militari embarqué dans son véhicule qui a directement démarré à toute allure en direction de moi.
Les habitants de Kiganda reconnaissent Désiré Niuhide, alias Gasongo, comme un homme qui entretient le bon voisinage avec les autres.
Il avait été arrêté, mais a été par la suite relâché. C'était un homme qui entretenait bon voisinage avec les autres. Il ne s'intéressait pas à la politique. Il faisait seulement le commerce de vente des vaches et de sa boutique.
Il s'inquiète de sa sécurité et demande sa libération inconditionnelle. Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzamba à Kiganda révèlent que Désiré Niuhide est la deuxième personne enlevée de cette localité dans moins de 2 semaines. Les mêmes sources indiquent qu'il avait des conflits latents au niveau de la Commission nationale terre et autres biens CNTB avec le responsable du service national des renseignements à Kiganda, Ladislas Niondiko. Ce dernier accuse les parents de Désiré Niuhide, alias Gasongo, d'avoir volé des vaches des siens au cours de la tragédie de 1972. La rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe a tenté de joindre par téléphone Ladislas Niondiko et Diomède Nzambimana, gouverneur de province à Muramvya, pour éclairer l'opinion sur cette situation qui prévaut dans leur zone de responsabilité, mais sans succès.
Et puis, la semaine du 25 au 31 octobre 2021 a été particulièrement sanglante. Au moins 12 personnes ont été tuées selon la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. Dans son bulletin hebdomadaire, l'organisation relève d'autres cas de violation des droits humains au cours de cette période. Elle dénonce l'impunité dont jouissent les auteurs de ces crimes, parmi lesquels les agents de l'État. On écoute André-Michel Nsabimana, chargé de la communication à la Ligue ITK.
Au moins 12 personnes ont été tuées, dont 9 cadavres retrouvés, 7 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, 3 personnes torturées, 1 personne enlevée et 5 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes figurent 3 femmes et 1 nouveau-né tué, ainsi qu'une femme arrêtée arbitrairement. Des Imbonerakure, des militaires, des policiers, des agents du service national de renseignement et des administratifs sont pointés du doigt comme étant les présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Ce bulletin relève des cas d'atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique et au droit à la liberté. Ce bulletin revient aussi sur des cas liés aux droits économiques, sociaux et culturels, à la pandémie de la COVID-19 et aux faits sécuritaires, dont des attaques à main armée ayant fait des blessés et des pertes en vies humaines. La Ligue ITK s'insurge contre l'impunité des crimes observés et demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris.
Parlons justice à présent pour vous dire qu'une peine d'emprisonnement à vie a été infligée à Shadrach Narugora par le tribunal de grande instance de Muyinga ce lundi après-midi dans une audience publique de flagrance. Selon nos sources proches de cette juridiction, ce jeune homme de 27 ans est accusé d'avoir assassiné son épouse Leonci Karenzo. Le point avec Trifine Kaniwabo.
Shadrach Narugora, 27 ans, a assassiné deux coups avec un morceau de bois au niveau de la tête à son épouse en plein sommeil et a rendu l'âme sur le champ. Des relations tumultueuses depuis un certain temps entre les deux conjoints auraient poussé le chef du ménage à commettre l'irréparable. Selon nos sources, la victime laisse derrière elle trois enfants. Le crime avait été commis la nuit du 29 octobre dernier à la colline Lutoke de la commune et province Muyinga. Invité par le président du siège à commenter le réquisitoire du ministère public qui avait demandé un emprisonnement à vie pour le prévenu, ce dernier a répondu sans faux fuyant qu'il était satisfait de la peine proposée par le ministère public. Après le délibéré, le tribunal a confirmé le réquisitoire du ministère public. Les frais de justice ont été par contre abandonnés.
Restons à Muyinga pour parler de ces conséquences néfastes liées à la pénurie du carburant qui continue de se manifester. Un véhicule de type Probox a pris feu quand le chauffeur faisait la queue à la pompe pour s'approvisionner. Selon un témoin qui était sur place, cet incident serait lié à la fuite du carburant. Des dégâts mineurs ont été occasionnés sur les véhicules qui attendaient d'être approvisionnés. Les consommateurs du carburant demandent au gouvernement de remédier à cette situation de manque de carburant pour éviter de tels accidents et faciliter aussi la libre circulation des personnes et des biens.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Et pour boucler ce journal, 13 associations et syndicats des professionnels de santé qui ne sont pas des médecins s'insurgent contre la discrimination dont ils sont victimes dans la mise en place des normes sanitaires au Burundi. Dans une correspondance adressée au ministre de la Santé, les représentants de ces organisations regrettent qu'aucun cadre du ministère non médecin ne peut prétendre à un poste de direction. Ces organisations demandent la révision de ces normes sanitaires. Le contenu de cette correspondance avec Prosper Ndissabida.
Dans cette correspondance adressée au ministère de la Santé avec copie au président de la République et les deux chambres du Parlement en date du 10 septembre 2021, ils ont demandé au ministre de la Santé de réviser les normes sanitaires du Burundi qualifiées de discriminatoires. Ces organisations regrettent que les professionnels de santé non médecins qui représentent plus de 90% du personnel de santé n'ont pas été associés dans l'élaboration de ces normes sanitaires qui les discriminent. En effet, selon cette correspondance, l'énoncé de tous les postes clés de direction du ministère commence par l'initial médecin. Ceci constitue une discrimination professionnelle à l'endroit d'autres cadres non médecins du ministère de la Santé. D'après ces normes sanitaires, selon la même correspondance, les cadres de direction du ministère de la Santé du niveau licence, baccalauréat et master en sciences de la santé ne peuvent prétendre occuper aucun poste de direction s'ils ne sont pas médecins. Cette correspondance d'ajouter qu'au cas où ces normes actuelles seraient préférées et mises en application, la population souffrira davantage d'une pénurie de médecins généralistes traitant dans des hôpitaux, car un grand nombre d'entre eux se trouvent dans les postes administratifs. Ces organisations demandent au ministère de la Santé d'enlever l'initial médecin qui les discrimine et de déployer un certain nombre de médecins généralistes annexés dans les postes administratifs et les réaffecter comme médecins traitants dans les différents hôpitaux. Ces associations et syndicats proposent que ces postes soient occupés par des cadres de niveau licence et d'être associés dans le comité du dialogue social du ministère de la Santé.
Merci Prosper Ndissabila et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à Radio Inzamba Gatikakawe. Au revoir et à la prochaine.